C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
Dans cette campagne électorale, l'écologie est incontournable. Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement, ancien candidat à la présidentielle pour Génération Écologie, nous livre ses réflexions sur l'écologie, notamment politique, avec Europe Écologie Les Verts, le nucléaire et les solutions au réchauffement climatique. Il publie « Excusez-moi de vous déranger » pour défendre le climat. Sortons des idées reçues aux éditions L'Aube.
Vous écoutez « Vivre, c'est épatant » avec Carole Clémence.
Brice Lalonde, bonjour.
Bonjour.
Alors, Emmanuel Macron vient d'annoncer la création de 6 EPR en France, en opposition totale avec d'autres candidats à cette présidentielle, comme Jean-Luc Mélenchon, Christine Taubira, Yannick Jadot. Vous-même, ancien candidat à l'élection présidentielle, vous êtes aussi président de l'association Équilibre des énergies. Quelle est votre opinion ?
Mon opinion est que ça a beaucoup tardé. C'est que l'avenir de la France, l'avenir du monde, il fallait s'y prendre un petit peu plus tôt pour tracer une voie sur, en tous les cas, la politique de l'énergie, parce que c'est l'énergie qui est très largement au centre du réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique, c'est causé par le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Donc, si vous voulez lutter contre le changement climatique, il faut se passer rapidement, le plus vite possible, du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste? Il faut passer par l'électricité, sans doute, parce que l'électricité, c'est un vecteur, comme on dit, c'est une forme d'énergie qu'on peut produire sans carbone, sans faire appel au pétrole, au charbon, au gaz naturel, par les renouvelables, par les barrages, mais aussi par le nucléaire. Et comme il faut électrifier beaucoup d'usages de l'énergie, on voit bien que ça commence avec les voitures, hein. Les voitures deviennent électriques, et c'est toute une affaire, c'est une vraie révolution, parce qu'il faut mettre des bornes de recharge partout, parce qu'il faut savoir comment on paye son électricité, il faut que l'électricité de la voiture soit aussi liée au réseau électrique, ce qui fait qu'il y a les heures creuses, les heures du pic, etc. Enfin, tout ça, c'est une révolution qui commence, et donc il faudra produire plus d'électricité, parce qu'il va falloir passer de 25% de consommation d'électricité en France aujourd'hui à 60% sans doute en 2050. Donc c'est un énorme effort. Et je ne vois pas très bien comment on peut faire sans le nucléaire. Donc si vous voulez, Macron, il a pris le temps de réfléchir. Mais ça va prendre du temps parce que le nucléaire, c'est pas évident, c'est pas simple. Et puis ça a des problèmes aussi, nous ne les cachons pas. Donc moi, ma thèse, c'est, on n'est pas obligé d'être pro-nucléaire, mais au moins évitons d'être anti-nucléaire parce que ça nous retarde. Il faut être anti-pétrole d'abord.
Oui, oui, anti-charbon, anti-pétrole. Et alors, les Allemands qui, eux, ont peu de nucléaire, eh bien, polluent plus que nous, finalement.
Exactement. Moi, je suis toujours épaté qu'on prenne toujours l'Allemagne comme un modèle. Alors, évidemment, ils construisent énormément d'éoliennes et beaucoup d'Allemands ont sur leur toit des cellules photovoltaïques, très bien. Mais quand même, pour l'instant, ils envoient deux fois plus de gaz à effet de serre que la France.
Oui.
Donc, si vous voulez... Est-ce qu'on peut dire qu'on est en retard sur l'Allemagne ? Non, pas du tout. En revanche, l'Allemagne, bon courage, nos amis allemands, parce que c'est pas évident. Ils sont obligés maintenant d'aller encore plus vite dans les renouvelables. Ils vont consacrer 3% du territoire allemand aux renouvelables. C'est un énorme effort. Et en même temps, on voit bien que ils passent des contrats avec la Russie. Hein, il y a le grand pipeline, le gazoduc Nord Stream 2. Il est en ce moment une star de l'actualité, si je puis dire, hein, dans la tension avec Poutine. Les Allemands sont obligés de dépendre du gaz russe s'ils veulent continuer sur leur chemin. Alors ils auront peut-être moins de charbon, mais ils auront plus de gaz. Alors c'est moins pire, si je puis dire, le gaz que le charbon. Enfin, tout de même, si vous voulez dépendre de l'ours russe, c'est pas évident non plus sur le plan politique.
Oui, oui. Si le pipeline s'arrêtait brusquement, il serait dans la merde, on peut le dire. Il n'y aurait plus de
Et d'ailleurs, vous avez bien vu, parce que là, en ce moment, comme il y a une très forte tension, le président des États-Unis a dit que si les Russes attaquaient en Ukraine, Nord Stream 2, le gazoduc, il s'arrêterait. Alors qu'il est à quelques kilomètres seulement de l'Allemagne, il est presque terminé. Mais quand le nouveau chancelier allemand était là-bas à Washington avec le président Biden, lui, il n'a pas du tout dit ça. Il a dit oui, ça coûtera cher à la Russie. Mais enfin, il n'a pas dit qu'on arrêterait le gazoduc. Et les Allemands, ils ont besoin du gaz russe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ils pensent peut-être passer à l'hydrogène directement. Et ils ont déjà passé des commandes aux Russes. pour que les Russes leur livrent aussi de l'hydrogène. On ne sait pas très bien comment il sera produit, parce que le problème de l'hydrogène, c'est comme l'électricité. Pour le produire, ça n'existe pas dans la nature.
Oui, oui. Et donc ça demande de l'énergie pour le produire, l'hydrogène.
Voilà. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite moi-même dans l'association Équilibre des énergies. C'est une association d'entreprises, donc c'est les gens qui produisent les choses. Hein. Et contrairement aux idées reçues, justement, l'idée reçue, c'était que on va consommer de moins en moins, on va être sobre, on va être économe, et comme ça, on va pouvoir lutter contre le changement climatique. Mais en réalité, si on passe par l'électricité, l'hydrogène et même les nouveaux carburants de synthèse pour les avions, ça va coûter cher en énergie. Donc la décarbonation, ça coûte cher en énergie. C'est pas du tout ce qu'on pensait.
Oui, oui. Et alors je reviens au nucléaire. On était bon au nucléaire avant, il y a quelques décennies. Hein, une grande partie de notre énergie était, et notre électricité était d'origine nucléaire. Et puis le nucléaire a eu mauvaise presse, de plus en plus mauvaise presse. Et on a fermé et on n'a plus produit, on n'a plus passé de nouvelles commandes de réacteurs.
On a laissé un petit peu partir à volo. Le nucléaire, l'industrie nucléaire, les ingénieurs et tout. Donc maintenant, on a du mal, on voit bien, on a du mal à terminer la centrale de Flamanville. On a des problèmes de soudure, on n'a plus les très bons soudeurs qu'on avait avant. Tout ça, le nucléaire, si vous voulez, c'est quand même une industrie de précision. Il faut quand même être très bon parce que c'est pas la peine d'avoir du nucléaire au rabais. Hein. Et il faut faire très attention. Et donc c'est vrai, on a perdu beaucoup de temps. Alors est-ce qu'on va pouvoir le rattraper ? On n'est pas les seuls maintenant. Tout le monde va passer progressivement au nucléaire. On le voit bien.
Tout le monde est en train de changer d'avis.
Tout le monde est en train de changer d'avis. Mais c'est très simple. Le changement climatique, c'est la pire chose, quoi. C'est en train de rendre la Terre inhabitable. Et donc, moi, je suis frappé de voir que dans la campagne électorale en ce moment, on en parle très peu. Alors, tout le monde est d'accord pour dire, il y a un changement climatique. Mais ensuite, comment on fait? Là, il n'y a rien, quoi. Bon. Donc, c'est vraiment une Terre inhabitable. Et c'est quand même extrêmement grave. Donc, il va falloir prendre des mesures. Et le nucléaire, c'est pas que ce soit génial, mais c'est le moindre mal. C'est comme ça que je le vois. Et en plus de ça, quand vous regardez les statistiques des assurances, combien il y a eu de morts par kilowatt ou par mégawattheure de produit, eh ben, c'est le nucléaire qui gagne. Et même, il gagne même sur le solaire, ce qui est assez frappant. C'est presque drôle, parce que les gens qui mettent le solaire sur leur toit, ils tombent du toit de temps en temps, et donc il y a eu quelques morts comme ça. Bon, alors évidemment, le nucléaire, il y a eu des gros pépins à Tchernobyl. Mais Fukushima, il n'y en a pas eu de gros pépins. Ceux qui sont morts, malheureusement, à Fukushima, ce sont les gens qui ont été noyés par l'immense vague de 30 mètres de haut. Quoi. Alors là, pour le coup, ça a été la vague qui était meurtrière, le tsunami a tué, mais pas la centrale.
Oui, il n'y a pas eu d'irradiation, ça n'a pas eu lieu.
Alors, non, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des gens qui sont morts parce qu'on les a déplacés de force, les personnes âgées. Bon, il y a eu des choses de ce genre-là. Et ils ont eu très peur, c'est évident, parce qu'on a très peur, parce qu'on ne sait pas. Bon, alors évidemment, il faut que le nucléaire soit sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Tout ça, c'est vrai. Alors Fukushima, vous savez, moi, ce qui m'a le plus frappé à Fukushima, c'est que le Japon s'est éloigné de la Chine de 5 mètres à peu près. Et donc, quand vous avez un accident comme ça, une catastrophe naturelle où le Japon, une île entière, s'éloigne de 5 mètres de la Chine, c'est quand même un gros truc. Et donc, devant un événement aussi extraordinaire qui a eu si peu de victimes de la centrale elle-même, c'est quand même assez étonnant, quoi.
Oui, oui. Et alors, dans votre livre, vous expliquez qu'il y a eu un grand changement en 1988, une prise de conscience. Bah, la vôtre, par exemple, vous étiez contre le nucléaire auparavant et vous avez dû vous dire le nucléaire, c'est un moindre mal.
C'est exactement ça. C'est en 88 parce que quand on a commencé l'écologie, on s'est bien amusé, bien entendu. Ça, c'était quand même sympathique et tout, et formidable. On était sûr de nous. C'était dans les années 70, la bicyclette, tout ça. Bon, et on n'aimait pas le nucléaire. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces énormes machines avec cette tuyauterie de tous les côtés et tous ces trucs radioactifs, ça nous faisait peur. Et donc, oui, en effet, moi, j'ai milité contre le nucléaire jusqu'en 88. En 88, tout d'un coup, on crée le groupe des scientifiques qui s'appelle le GIEC, le groupe des scientifiques pour l'étude du climat, un groupe international de scientifiques qui nous explique ce que c'est que le changement climatique et qui nous dit, attention, si vous continuez comme ça à brûler du charbon, du pétrole et du gaz naturel, vous allez envelopper la planète d'un manteau qui va réchauffer la surface de la Terre, et puis vous allez avoir énormément de pépins avec la mer qui va monter. La mer, elle monte en ce moment, il faut bien se dire. Ça va nous faire peut-être un demi-mètre à la fin du siècle, et peut-être plus. Vous avez des tempêtes là, il y a eu deux morts encore récemment, là, dans le nord de la France. ces tempêtes sont de plus en plus violentes. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Saint-Martin, dans les îles des Caraïbes, les vents étaient à 300 km/h. Comment voulez-vous résister à 300 km/h? C'est quasiment impossible. Donc, si vous voulez, la Terre, oui, elle devient extrêmement inhospitalière. Et pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'avenir des humains sur la planète, c'est quand même une catastrophe. En plus de ça, si la mer continue à monter de plus en plus, elle va quand même effacer presque des cartes du monde un certain nombre de grandes villes qui sont au bord de l'eau. Donc tout ça, c'est gravissime. Simplement, évidemment, c'est pas immédiat. Voilà, on se dit, oh ben finalement, c'est pour les autres.
Alors c'est vrai que déjà en 88, on en prenait conscience.
Exactement.
Vous le saviez en 88.
Mais même, ça a commencé même, alors moi j'étais pas au courant, mais ça a commencé même en 72, là j'ai fait des recherches. Il y a des scientifiques qui pensaient que ça pouvait arriver et qui ont alerté. Mais il y en avait d'autres qui disaient, mais il y a tellement de pollution que finalement ça refroidit. Est-ce qu'on va vers le froid, vers le chaud? On ne savait pas encore. Il fallait vraiment être sûr de soi, quoi. Et en fait, il y a des précurseurs, comme toujours. Même René Dumont, notre fameux candidat des années 74, là, même lui, il pensait que ça pouvait arriver.
Oui.
Bon, alors on n'a pas écouté au début. Il a fallu attendre 88. Et vous savez, c'est curieux, c'est Madame Thatcher. Alors Madame Thatcher, elle n'a pas laissé un extraordinaire souvenir.
Non, du tout.
Bah, c'est quand même, elle y croyait au changement climatique parce qu'elle était scientifique de formation.
Très bien. Et donc, c'est elle qui a fait bouger les choses.
Alors, c'est elle qui a fait bouger les choses et c'est elle qui a persuadé M. Reagan, qui n'était pas du tout...
Non, lui, il était acteur.
Ah oui, un acteur, exactement. Et a persuadé de créer le GIEC, parce qu'il fallait qu'il y ait l'accord de tous les pays du monde pour créer ce groupe de scientifiques au sein des Nations Unies. Et c'est vraiment paradoxal quand on y pense aujourd'hui. Voilà, l'histoire passe par des chemins quelquefois détournés.
Oui, et donc cette prise de conscience, 88, là on se tourne vers le nucléaire, enfin pas tout le monde, hein, vous, mais les écologistes, en tout cas l'écologie politique, elle est contre le nucléaire, elle l'est toujours.
Oui, c'est très difficile, c'est un parti politique. Hein. Et est-ce qu'il fallait que l'écologie se transforme en parti politique? Moi je trouve que c'est sans doute une erreur, parce que du coup vous avez tous les autres partis qui sont contre vous, parce que vous leur piquez des voix, vous êtes concurrents. Mais c'est difficile pour un parti de changer quand c'est presque... aussi fondamental pour le Parti Vert d'être anti-nucléaire, ils ont l'impression que s'ils changeaient d'avis là-dessus, ils perdraient leur identité. Donc c'est difficile. C'est pareil pour les OGM, si vous voulez.
Vous pensez qu'il y a à l'intérieur de ce parti des gens qui...
Oui, ça commence.
Oui.
Parce que vous avez un certain nombre de gens, et surtout une personnalité tout à fait remarquable qui a énormément convaincu de Français, qui s'appelle Jean Covici, Jean-Marc Jancovici. Et au Vert, maintenant, vous avez une nouvelle génération de jeunes qui ne sont pas anti-nucléaires, ce qui effraie les dirigeants du Parti Vert, qui se disent, mais enfin, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, ceux-là? Bon, mais il faut que les écologistes se réveillent, voilà. Parce qu'en principe, c'est quoi un écologiste? C'est quelqu'un qui veut préserver les conditions de vie sur la planète Terre. Hein. Il est là pour que la nature soit agréable, soit sauvée, pour que la vie soit agréable, pour qu'on puisse avoir de l'eau fraîche, des choses de ce genre-là, quoi. Et pour qu'il y ait des arbres, les arbres c'est tellement important contre le changement climatique parce que ça évapore de l'eau, ça fait de la fraîcheur, etc. C'est ça les écologistes, ça ne doit pas être des gens qui sont victimes d'un dogme, voilà, ils sont là, ils doivent adapter en quelque sorte leur action, leur pensée à ce qui se passe, à la réalité.
Oui, oui. Et justement, il y a beaucoup à dire. Vous en parlez dans votre livre, Brice Lalonde, « Excusez-moi de vous déranger. Pour défendre le climat, sortons des idées reçues » aux éditions L'Aube. On continue d'en parler avec vous juste après une pause musicale.
Vous écoutez « Vivre, c'est épatant » avec Carole Clémence.
Brice Lalonde est notre invité, ancien ministre de l'Environnement, président de l'association Équilibre des Énergies, ancien candidat à la présidentielle. Et également, Brice Lalonde, vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes un militant écologiste des premières heures et vous êtes toujours militant écologiste. Vous sortez le livre « Excusez-moi de vous déranger ». Pour défendre le climat, sortons des idées reçues aux éditions L'Aube. Alors, on parlait de ce grand parti écologiste de gauche, Europe Écologie et Les Verts. C'est un peu... l'écologie, c'est une petite partie de ce parti, finalement. Puisque leurs opinions sont de gauche, les thématiques sont de gauche, voire d'extrême gauche. Est-ce que c'est pas gênant pour l'écologie?
Si, je pense que ça enferme un peu l'écologie dans un corridor extrêmement étroit. En fait, quand on discute avec la jeune génération et même avec beaucoup de Français, tout le monde est écolo. Mais
oui.
sans exagérer quand même.
Mais alors, on est écolo, mais on a en tête les déclarations de politique d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, sur le voile, sur l'immigration. On peut se dire, si on n'est pas de ce bord, ah ben non, je ne veux pas suivre ça, je ne veux pas voter pour eux.
Exactement. Et donc ça, c'est embêtant, parce que l'écologie, ce n'est pas ça. L'écologie, c'est quand même d'abord la défense de la nature et du bien-être des hommes dans la nature, quoi, hein. Et on ne fait pas la défense du moustique, parce que d'abord le moustique, on n'est pas forcément notre meilleur ami, mais c'est d'abord l'être humain, quoi. C'est d'abord humaniste, hein. Et c'est vrai que si ensuite on introduit une espèce de confusion entre la défense de la nature et un certain nombre de thèses tout à fait controversées, disons, et extrémistes, c'est vrai qu'on ne rend pas service à l'écologie.
Oui, vous entendez vous-même d'autres personnes comme vous qui sont militantes écologistes déplorer ce fait
Oui, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Alors peut-être qu'ils ne disent pas écologie, ils disent nature, ou ils n'ont pas d'autres mots si vous voulez, parce qu'ils ont peur d'être confondus avec le parti EELV, quoi.
Bon, c'est un peu un repoussoir pour certains.
Oui, c'est embêtant quand même,
oui.
Vous vous rendez compte? Et puis là, je vois les intentions de vote pour Monsieur Jadot, qui est un type sérieux. Bon, mais quand même, ça ne dépasse pas. C'est la même chose qu'il y a 20 ans, quoi, ou qu'il y a 30 ans. On reste aux alentours de 5%. Donc est-ce que c'est pas le moment, justement, pour les écologistes, et notamment les écologistes politiques, de se dire, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on n'est pas dans une impasse? Est-ce que au moment même où tout le monde se rend compte de la gravité du changement climatique, est-ce que c'est normal de ne pas faire 20%, quoi?
Oui.
C'est ça la question qu'il faut se poser. Et je crois que le mieux que les écologistes puissent faire, c'est de convaincre tous les partis, de parler à tout le monde en disant, bah, écoutez, vous êtes tous d'accord pour considérer qu'il y a quand même un phénomène extrêmement grave qui est en train de se produire en ce moment avec le changement climatique. Essayez de nous persuader vous allez être les meilleurs pour traiter ce problème. Alors il y a la gauche qui va dire, ben, peut-être avec un peu plus de règlement, la droite elle va dire c'est le marché ou je ne sais quoi. Ça va être une discussion normale entre partis pour faire mieux et moins cher que les autres pour combattre le changement climatique. Et au lieu de ça, il y a cette idée d'avoir le monopole de l'écologie, hein, et de dire du mal de tous les gens qui essayent de faire quelque chose. Ça m'a frappé le plus. Dès que quelqu'un fait quelque chose, ah non, 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 c'est du greenwashing, c'est pas sérieux, c'est pas assez. Ça va pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, que chaque fois que quelqu'un fait un pas dans la bonne direction, il faut lui dire bravo.
Bien sûr.
Voilà, c'est bien. Il faut continuer, il faut aller plus loin. Mais c'est déjà une bonne chose. Et sinon, on devient une petite secte, quoi.
Oui, vous pensez que Europe Écologie Les Verts, c'est une petite secte?
Oui, écoutez, je ne vais pas dire du mal des autres, mais je pense qu'il y a un risque de s'enfermer comme ça dans des attitudes extrêmes qui sont des repoussoirs, en effet. Alors maintenant, il faut discuter, il faut s'ouvrir, je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait?
Qu'est-ce qu'il
faudrait que ces gens, par exemple, qui sont à Europe Écologie Les Verts, fassent?
Mais là, par exemple, si on veut lutter contre le changement climatique, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, je vous disais, il faut électrifier. Ben, rien qu'électrifier, c'est tout un boulot. Donc il faut faire une espèce d'union sacrée sur cette question. D'abord, il faut aider les Français à acheter des véhicules électriques, parce que c'est quand même encore cher. Il faut changer les lois pour qu'on puisse mettre des prises pour sa voiture dans tous les immeubles. C'est pas encore fait, tout ça. Il faut savoir si on peut mettre des bandes de recharge rapides le long des autoroutes et des choses de ce genre-là. Tout ça, c'est très important. Et puis, il ne faut pas dépendre de l'Asie. Il faut donc construire nos usines pour faire des batteries. Il faut sans doute ouvrir des mines pour avoir les métaux dans ces batteries, hein, c'est le lithium et autres. Il y a une espèce d'énorme plan, une espèce de feuille de route pour lutter contre le changement climatique qui devrait être transpartisane. Tous les partis devraient se mettre d'accord. Ensuite, simplement, le parti va dire ah non, moi je le ferai plutôt comme ça que comme ci. Mais si vous voulez, le fait qu'il y ait des voitures électriques et qu'il y ait des bornes de recharge et des batteries, c'est évident. Et les batteries, ensuite, il faut les recycler et tout ça. C'est un énorme projet. Alors, et ensuite, il y a les bâtiments. Comment fait-on pour les bâtiments? Alors là, tout le monde s'engueule sur les bâtiments. Tout le monde sait qu'il faut. Les bâtiments, il va falloir isoler le toit, il va falloir changer la chaudière, parce que si c'est une chaudière au fioul, ça ne va pas. Le fioul va contribuer au changement climatique, il faut mettre des pompes à chaleur. Ça. Il y a un énorme effort, et il faut notamment qu'il y ait des artisans, il faut aider les artisans, il faut les former, il n'y a pas assez d'artisans capables de le faire. Tout ça, ce sont des choses assez simples, si vous voulez, mais qui ne sont pas du tout défendues, personne ne le dit. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Et alors, évidemment, il y a l'agriculture. Vous savez, c'est un peu anecdotique, mais les vaches, quand elles mangent de l'herbe, de temps en temps, elles font des petits rots. Et ça, c'est du méthane. Et comme il y a énormément de vaches dans le monde, ben, peut-être qu'il va falloir trouver un système pour leur donner autre chose à manger. Peut-être qu'il faut manger un peu moins de viande. Oui, c'est vrai, sans doute, un peu moins de viande. Et notamment, pas uniquement des beefsteaks, mais aussi du pot-au-feu, hein, etc. C'est-à-dire les arrières de la viande, de l'animal. Bon, il y a quand même un changement dans les pratiques, les modes de vie, mais un changement, on n'est pas obligé de tout de suite de retourner à l'âge des cavernes, bien entendu. C'est un changement qui, en principe, vers le mieux, vers, en principe, on ira mieux, oui. On mangera mieux. Mais tout ça, c'est, s'il n'y a pas une espèce d'alliance qui présente le futur sous une forme quand même sympathique, hein. On peut vivre mieux, ça peut être très amusant, ça peut être aussi l'occasion sur la planète Terre de se mettre tous d'accord au lieu de s'engueuler, parce que quand même, si on se fait la guerre, bah, le changement climatique, c'est pas très bon, hein.
Effectivement.
Etc. Mais non. Et oui. Donc, si vous voulez, il y a quand même, à mon avis, une extraordinaire opportunité avec les nouvelles techniques, etc., avec les énergies renouvelables, le solaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'énergie solaire? Fantastique, c'est la lumière qui se transforme en électricité. On ne peut pas faire mieux. Donc, si vous voulez, pourquoi est-ce que les maisons nouvelles...
En France, on n'est pas vraiment bien lotis à ce niveau-là. Je pense que le solaire, ce serait plus pour les pays africains, plus pour les pays... le sud de la France.
Oui, c'est, justement, pourquoi il n'y en a pas assez dans le sud de la France? Mais ça marche un peu partout. C'est la lumière, hein, qui se transforme. Alors évidemment, plus il y a de la lumière, mieux c'est. Mais on pourrait par exemple prévoir que toutes les maisons neuves puissent recevoir du photovoltaïque. Puissent, pas forcément qu'elles les portent tout de suite, mais que le propriétaire il sache que ben, dans l'avenir, ça peut être possible s'il le décide, etc. Les progrès sont très très rapides. Hein. Vous avez des maisons qui ont des batteries aux États-Unis, c'est obligatoire, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que si notre problème pour tous, c'est d'avoir trop de gaz carbonique, de CO2 dans l'air, peut-être qu'on va pouvoir le pomper, aller le chercher. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'innovations en ce moment qui vont se traduire par un urbanisme différent, parce qu'il faudra peut-être que chaque maison ait son petit système de capture du CO2, etc. C'est complètement neuf et il faut être optimiste et il faut surtout croire que les scientifiques et les techniciens sont capables, si on les aide, de résoudre le problème.
Oui, oui. On continue à en parler justement, la recherche sur ces nouvelles énergies, sur ces nouveaux modes de production d'énergie. On continue à en parler dans un instant, Brice Lalonde.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Et nous parlons écologie avec Brice Lalonde, son livre « Excusez-moi de vous déranger ». Pour défendre le climat, sortons des idées reçues aux éditions L'Aube. On parle d'écologie, des différentes possibilités pour aider, pour lutter contre ce changement climatique. Alors, il y a beaucoup de choses que vous nous avez déjà parlé de beaucoup de choses. Il reste évidemment d'autres choses. Est-ce que la recherche est suffisante pour mettre en place quelque chose d'innovateur et de sain?
Ce serait mieux que les dépenses militaires, on les tourne vers la recherche contre le changement climatique et l'écologie. Bon, donc ça, qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait qu'on se mette à peu près tous d'accord. C'est ça, je pense, la grande difficulté. Moi, je me disais, avec le changement climatique, le monde entier va se mettre d'accord, ça va être formidable, parce qu'on a une espèce d'ennemi commun, qui est le bouleversement du climat. Mais malheureusement, ça peut devenir aussi chacun pour soi. Donc voilà, c'est ça un petit peu ça le risque. Vous avez déjà des îles qui ont disparu, oui, dans le Pacifique. Elles ont disparu, on ne les voit plus. Et vous avez d'autres qui vont sans doute disparaître parce qu'elles sont à 1 mètre, 2 mètres maximum du niveau de la mer actuelle. Donc la recherche n'est pas suffisante au sens où il faudrait absolument que... Peut-être qu'on développe des arbres, des super arbres. Hein. J'ai rencontré un scientifique qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des super arbres? On ne crée pas des super arbres qui vont capturer avec la photosynthèse le gaz carbonique pour se transformer en arbres, en feuilles, etc. Ça commence justement. On commence à le faire. C'est très amusant. Et il y a la recherche génétique. Alors là aussi, les vers, ils n'aiment pas ça. Hein, les OGM, les organismes génétiquement, oui, modifiés. Mais peut-être qu'on sera obligé de faire ça, justement, si on veut avoir des arbres un peu plus efficaces pour capturer, pour lutter contre la pollution, etc. Bon, donc sans doute que c'est pas assez. Voilà. Il faudrait vraiment faire plus, et notamment, pas simplement l'énergie, ou la nouvelle agriculture, mais aussi aller chercher la pollution pour l'éliminer. Ça commence notamment en Islande. Moi, ça m'a beaucoup frappé. En Islande, il y a une société qui récupère le gaz carbonique, la pollution de l'air, et qui l'envoie, ce CO2, qui envoie dans le sous-sol.
Eh oui.
Et là, ce qui est un gaz, quand c'est dans le sous-sol, c'est profond, ça se liquéfie, hop, ça touche la roche, et au bout d'un certain temps, ça devient du calcaire. Donc
ah oui,
ça devient un rocher. C'est ça qu'il faut faire, quoi. Et l'idée générale, c'est qu'à la limite, ce carbone, ce fameux carbone qui est dans le gaz carbonique, ce fameux carbone qui est notre problème, nous l'avons sorti de la terre, avec le pétrole, le charbon, et nous l'avons mis dans l'air, sous forme de CO2. Bah, essayons de prendre le carbone du CO2 au lieu d'aller le chercher sous terre. Donc, il y a un avenir pour l'humanité qui est tout à fait passionnant et qui, à mon avis, n'est pas loin. C'est pas loin, tout ça. Le tout, c'est qu'il faut le faire. Et évidemment, vous allez vous heurter à des intérêts parce qu'il y a quand même des gens qui vendent du pétrole, du charbon, et qui n'ont pas du tout envie d'arrêter parce qu'ils se disent « je gagne de l'argent ». Et en ce moment, on a fait des bêtises. Là, on dit qu'il ne faut plus... Les grandes banques, les grandes entreprises, maintenant, elles sortent du charbon. Mais vous avez des petits malins qui, eux, continuent à se mettre dans le charbon en se disant « Ah ben, regardez, les prix de l'énergie ont augmenté, on n'a pas assez d'énergie, on aura donc encore besoin du charbon, on va se faire du pognon. »
Et oui.
Donc, il y a encore des filous, quoi, si vous voulez. Hein. C'est ça, la difficulté.
Mmh, oui. Brice Lalonde, il y a beaucoup de gens qui sont, contrairement à vous, vous êtes optimiste, vous regardez ce qui se fait de bien et vous l'encouragez. Il y a des gens qui se disent, non, le monde va mal, il faut être en décroissance, il faut arrêter de produire, il faut arrêter de consommer, il faut même arrêter de faire des enfants.
Mmh, oui, quelle horreur. Il faut faire des enfants, au contraire, c'est la joie, c'est l'optimisme, ça nous rend jeunes d'avoir des enfants. Donc c'est bien de faire des enfants, enfin moi je trouve, hein, donc voilà. Alors est-ce qu'on est trop nombreux sur la planète Terre? De toute manière, tous les démographes disent, finalement, dans quelques temps, la population va décroître. Parce que on voit bien que
parce
plus le pays
trop.
Est développé, oui. Plus la civilisation avance, plus ça coûte cher d'avoir des enfants.
Oui.
Et donc on les élève, et parce que l'éducation c'est ce qu'il y a de plus important, et donc on en fait moins. Bon voilà, donc ce phénomène de faire moins d'enfants parce qu'on veut le meilleur pour eux, c'est en train de se développer un petit peu partout. Mais il faut être optimiste, évidemment qu'il faut être optimiste. À quoi ça sert d'être pessimiste et de s'enfermer dans sa coquille? Ça sert à rien. C'est évident qu'on est quand même 7 milliards, donc ça fait 7 milliards de cerveaux. Vous vous rendez compte, 7 milliards de cerveaux, ça doit quand même sortir des choses bien quand même.
Mais oui, on attend.
Oui.
On attend. En tout cas, pour l'instant, il faut rester sur le nucléaire en France. Il faut, ça, c'est un moindre mal, il faut vraiment rester sur le nucléaire.
C'est le nucléaire, mais il y a aussi les renouvelables, il y a aussi l'énergie solaire. Il y a aussi les économies. Il faut qu'on fasse attention à ne pas gaspiller tout ça. Tout ça, c'est parfaitement exact. Et puis le nucléaire, si vous voulez, il faut l'améliorer. Moi, je suis partisan d'une technique qui consiste à casser les déchets de longue durée. Le problème, le talon d'Achille du nucléaire, ce sont les déchets. Parce qu'on ne sait pas très bien quoi en faire. Il y en a certains qui durent très longtemps. Bon, et il y a une technique qui consiste à prendre les déchets qui durent longtemps, à les mettre dans un réacteur spécial, à les casser. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de déchets qui durent longtemps, vous n'avez que des déchets qui durent pas trop longtemps. Alors pour le nucléaire, pas trop longtemps, c'est quand même 3 siècles. Hein. Mais 3 siècles, pour un ingénieur, c'est le château de Versailles, il est toujours debout. Donc
oui.
Créer un endroit pour les mettre, les déchets qui durent 3 siècles, c'est pas un problème. Voilà. Le problème en ce moment, c'est d'avoir quelque chose qui dure des dizaines de milliers d'années. Alors, c'est pour ça qu'avec cette technique qu'on appelle la transmutation, je pense qu'on doit pouvoir régler la question des déchets. Mais je voudrais que la France s'engage dans cette voie-là. C'est-à-dire que je ne suis pas un pro-nucléaire béat. Je pense qu'il faut du nucléaire, mais je pense qu'il faut l'améliorer, le nucléaire.
Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de Greta Thunberg, qui est une sorte d'icône médiatique?
Je trouve qu'elle est courageuse et qu'elle... Elle s'en prend de manière un peu brutale à ses aînés. Je trouve que...
C'est l'âge qui veut ça.
Ce que je trouve un peu ridicule, c'est qu'on l'invite comme si c'était une action d'éclat. C'est très bien, elle a ses convictions, elle les défend. Ensuite, que l'on pense faire quelque chose de sérieux contre le changement climatique en l'invitant à parler, ça ne suffit pas quand même. Donc je pense que c'est très difficile. J'avais essayé d'expliquer ça dans le bouquin en citant Trotsky, figurez-vous, pour un 68-art comme moi. Trotsky disait, la vapeur, c'est très bien, la vapeur, c'est une source d'énergie. Mais si la vapeur n'est pas dans un cylindre avec un piston, ça ne sert à rien. Et donc, le problème, c'est pareil pour toutes ces manifestations. Il faut trouver le cylindre et le piston. Il faut que toute cette énergie soit utile à quelque chose, pas simplement à rouspéter.
Oui, oui. Brice Lalonde, là, nous sommes en pleine campagne présidentielle. Vous regardez les programmes des partis
et... Naturellement, non seulement je regarde le programme des partis et des candidats, mais nous les invitons dans notre association pour qu'ils viennent s'expliquer et on essaye de les convaincre. Alors, Équilibre des énergies, c'est une association. Il y a surtout des entreprises, mais il y a aussi des associations de consommateurs. Et avec les entreprises, il y a les entreprises du bâtiment, du transport, de l'énergie, et tous ces gens-là ensemble, on essaye de savoir comment il faut s'y prendre pour décarboner.
Oui, ils vous écoutent
Oui, alors, oui, ça marche pas mal.
Ça marche, ouais. Ils vous écoutent. Brice Lalonde, je rappelle le titre de votre livre, « Excusez-moi de vous déranger pour défendre le climat, sortons des idées reçues » aux éditions L'Aube. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous sortez ce livre, quels sont vos futurs projets?
Alors, nous cherchons à convaincre. Ce que je voudrais, c'est que... Je voudrais presque que ce soit le Greenpeace des entreprises. Quoi. Je voudrais faire la démonstration que sans les entreprises, on n'y arrivera pas. Parce que là aussi, les Verts, comme ils sont plutôt à l'extrême-gauche, ils se méfient des entreprises.
Oui, il faut les
Mais moi, je pense que sans les entreprises, on n'arrivera à rien, parce que ce sont les entreprises qui éventuellement détruisent la planète. Et donc, il faut au contraire qu'elles régénèrent la planète et que les nouvelles techniques qu'elles emploient soient au service de la planète et des hommes. C'est en train d'arriver. Moi, je vois, c'est extraordinaire, les progrès qui ont été faits depuis 30 ans. Il y a 30 ans ou 40 ans déjà, mon Dieu, on était quand même considérés un peu comme des oiseaux. Bon, alors maintenant, tout le monde se rend bien compte que c'est ça. Ces COP, les conférences des Nations Unies, maintenant, il y a 40 000 personnes. Donc tout le monde se rend compte qu'il faut faire quelque chose et on a beaucoup de mal encore à le faire. Bon, pourquoi est-ce qu'on a du mal? Parce qu'il y a des pays, par exemple, qui n'ont que du charbon chez eux. Alors, ils se disent, vous n'allez pas m'empêcher de me développer. Moi, j'ai oui. que du charbon. Alors, donc, il faut les aider. Comment est-ce qu'on peut les aider? Peut-être avec du nucléaire ou peut-être... Déjà, le gaz, c'est moins pire, si je puis dire, que le charbon. Donc il n'y a pas assez de solidarité, si vous voulez, pour s'entraider, pour lutter contre le changement climatique. Il y a encore trop de compétition des nations qui veulent absolument arriver avant les autres.
Ah oui, il y a vraiment une compétition et ça nuit.
Oui, il y a une compétition, bien sûr. Il y a même des gens qui pensent que le changement climatique, ça va les avantager. Donc, vous voyez.
Mais vous avez quand même.
Eh ben, ils vont se dire, ça va être l'autre qui va en souffrir plus que moi.
Oui. Donc,
et puis, il y a des gens qui disent, c'est formidable. Moi, j'ai toutes les techniques pour m'en sortir mieux que les autres, etc. Donc, oui, ça arrive. Mais il y a aussi des pays, je ne sais pas, des pays qui ne sont pas considérés comme des pays les plus avancés, hein, comme le Panama, le Costa Rica, etc. Ils sont déjà quasiment neutres. Ils n'envoient plus de gaz carbone dans l'air. Bon, alors ils ont des avantages. Il y a des volcans, il y a de la chaleur, de la géothermie, tout ce que vous voulez. Mais quand même, toutes ces techniques sont en train de se développer. Et c'est vrai que pour un pays, par exemple la France, si... elle arrive à décarboner rapidement et à lutter contre le changement climatique mieux que les autres, elle va pouvoir vendre. Elle va pouvoir avoir un avantage économique, si vous voulez. Je pense que de toute manière, c'est surtout au niveau européen qu'il faut agir, parce que c'est sûr que même si la France n'envoie aucun gaz nuisible au climat, ça ne suffira pas. Parce que c'est quand même d'abord la Chine, l'Inde, les États-Unis, tous ces grands pays-là qui en envoient beaucoup plus de pollution.
Oui,
donc
si
il faut que tout le monde le fasse. Mais si l'Europe y arrive avant les autres, à mon avis, les gens vont se dire « Ah tiens, l'Europe a réussi, nous aussi on va y arriver ».
Oui, il faut montrer l'exemple et titiller les autres, effectivement. Merci Brice Lalonde, excusez-moi de vous déranger. Pour défendre le climat, sortons des idées reçues. C'est le titre de votre livre aux éditions L'Aube. Je vous remercie d'être venu et puis de votre engagement pour l'environnement. Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.